Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles font des études et accèdent à un degré de culture qui dépasse souvent celui des garçons. Ces étudiantes constituent une nouveauté dans la société albanaise et, conscientes de leurs valeurs, elles souffrent de la brutalité des hommes. Les seuls accrochages que j'eus avec mes étudiants furent provoqués par leur comportement grossier. En hiver, il faisait parfois 5 ou 6 degrés dans la salle. En tant qu'étrangers, nous avions à notre disposition un petit réflecteur à résistance électrique. Comme j'enseignais en déambulant dans la classe, j'installais le réflecteur devant les premières tables d'une rangée avant de faire entrer les étudiants. Au moment de commencer mon cours, je m'aperçus que la disposition habituelle n'était plus respectée. Ordinairement, les garçons étaient au fond, fidèles en cela à une tradition internationale, et les jeunes filles devant. Ce jour-là, les étudiants étaient regroupés devant, auprès du réflecteur, tandis que les étudiantes étaient refoulées vers le fond. Je déclarai que la galanterie française m'interdisait de commencer le cours dans ces conditions. Je demandai aux étudiants de se lever pour laisser la place aux jeunes filles. Elles s'assirent avec satisfaction devant ce petit réflecteur qui n'avait jamais été tant convoité. Alors ça, c'est pour l'anecdote. Alors, je vais encore vous lire un petit passage sur le problème de l'émancipation des femmes. L'émancipation des femmes ne fait que commencer. Quand un étudiant se fiance, il arrive qu'il interdise dorénavant à sa promise d'adresser la parole à un garçon. Une femme mariée évite de se trouver seule avec un homme. De même, les jeunes filles sortent rarement avec un garçon s'il n'est pas leur fiancé. Les étudiants en souffrent. Dans l'Albanie traditionnelle, la jeune fille des montagnes avait interdiction de parler à un garçon. Si elle était vue, elle ne trouvait plus à se marier et ne survivait guère au déshonneur. Les jeunes étudiantes brillantes n'accepteront pas d'être dominées comme leur mère. Elles ne sont d'ailleurs pas pressées de se marier. Certaines, qu'aucun défaut n'afflige, ne sont pas fiancées à 26 ans et ne semblent pas désireuses de tomber sous la coupe d'un mâle. Elles choisissent même parfois leur fiancé qu'elles imposent à leur famille. Cela ne va pas sans difficulté, car les plans de mariage des parents sont alors caducs. Voilà, donc ça c'est quelques petits passages qui indiquent bien qu'actuellement, ce pays est vraiment en marche vers quelque chose, et pas en marche à cause de diktats politiques, mais par une évolution lente, mais absolument inéluctable. Et effectivement, tout ce qui s'est passé depuis une année dans les pays de l'Est va aussi influencer probablement l'Albanie. Et dans ce sens-là, ce livre est, je trouve, extrêmement intéressant parce qu'il nous donne une idée très actuelle de l'Albanie par des gens qui l'ont vraiment vu changer.
C'est étonnant quand même ce que qui est raconté dans ton livre à propos des femmes, parce que vraiment on a l'impression qu'elles ont échappé complètement à la fameuse libéralisation des femmes qu'on a quand même retrouvée au moins au niveau légal dans la plupart des pays de l'Est, où officiellement les femmes jouissaient quand même d'une certaine liberté d'action et qui avait le pendant négatif d'avoir des charges très lourdes sur leurs épaules, qui apparemment n'existe pas en Albanie.
Oui. Bon, moi je pense que je suis pas spécialiste des pays de l'Est, mais j'imagine que c'est tout à fait différent de comparer l'Albanie à des pays comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie, qui ont toujours eu quand même un développement culturel assez proche de l'Europe, qui sont vraiment des pays européanisés historiquement de l'histoire du monde depuis très longtemps, et l'Union soviétique, où il y a sûrement encore des républiques où les femmes n'ont aucune liberté.
Ah oui,
et je pense que dans ce sens-là, on pourrait faire un parallèle entre l'histoire des femmes albanaises et l'histoire des femmes de certaines républiques socialistes du RSS.
Entre autres influencés par l'islam, ça semble évident.
Probablement.
C'est un poids très important. Quoi.
On devrait peut-être creuser dans ce sens-là pour comprendre mieux les relations anciennes et actuelles des hommes et des femmes dans ces pays.
Je crois qu'il est un aspect de ton livre qui est un petit peu plus didactique, mais qui nous en apprend beaucoup. C'est la partie qui est consacrée à l'histoire de l'Albanie. Entre autres, qui nous permet de découvrir que l'Albanie a des héros valeureux, tel notre Guillaume Tell.
Oui, alors effectivement, j'ai eu l'impression, aussi en lisant le livre que le jeune couple qui est l'auteur, donc Elisabeth et Jean-Paul Chansex, avaient beaucoup de temps libre. On a vu qu'ils n'avaient pas une vie sociale extrêmement active par la force des choses. Et j'ai l'impression que c'est des gens qui ont fouillé toutes les bibliothèques possibles et imaginables et qui se sont renseignés sur tout ce qui s'était passé en Albanie dans les siècles antérieurs. Il est de notoriété publique qu'un grand héros, le héros des aigles, comme on dit, parce que sur l'emblème de l'Albanie, c'est les oiseaux, les aigles. C'est le héros qui s'appelle Skander Bey, qui est un grand général chrétien et qui a en fait chassé les Turcs de son pays et qui a lutté contre la domination ottomane, donc en 1420, dans les années 1420. À sa mort d'ailleurs, l'Albanie a essayé de résister, mais finalement a été soumise ensuite à la porte sublime, comme on appelle.
Oui, qu'est-ce que la porte sublime ?
C'est l'Empire ottoman, en fait.
Donc en fait, l'Albanie a été un pays qui a subi de nombreuses occupations, comme la plupart des pays de cette région du monde, qui ont passé d'une domination sous une autre.
Oui. Et les influences principales ont été effectivement l'influence turque pendant quand même plusieurs siècles. La Grèce a aussi été très importante pour eux et je pense que là aussi certains parallèles pourraient être intéressants à rechercher. Et il y a d'ailleurs des minorités grecques qui habitent l'Albanie. De la même façon, il y a en Italie des minorités qui parlent encore un albanais quasiment médiéval.
Ismaël Kadari raconte dans un de ses livres que l'Odyssée se serait peut-être créée en Albanie.
Oui, oui.
Donc,
et lui, Kadari, donc, se sent très proche de Eschyle pour lui. Pour lui, c'est donc le grand écrivain, le personnage dans la littérature dont il se sent le plus proche.
Il y a d'autres pages de l'histoire albanaise qui t'ont permis de comprendre mieux peut-être les étapes de la création de cet État qui est devenu ensuite un État moderne, indépendant.
Alors bon, il y a effectivement toute une analyse, une description de qu'est-ce qui s'est passé en fait après la Première Guerre mondiale, après la fameuse crise des Balkans et la façon dont les Européens ont un petit peu démantelé l'Albanie. Les Yougoslaves en prenaient un petit bout, l'Italie en prenait un petit bout, la France s'installait quand même dans une ville, créait un lycée avec des relations donc privilégiées, quoi, qui étaient d'ailleurs positives. Et ensuite, la difficulté, effectivement, pour ce pays de trouver une identité nationale à cause des fameux clans. Et Jean-Paul Chansex explique bien qu'en fait, cette société est une société qui est restée clanique, comme il dit, donc centrée autour d'un patriarche avec des règles extrêmement strictes des gens entre eux. Et tout à coup, le communisme est arrivé et a décrété, vraiment du jour au lendemain, on ne va plus vivre comme cela. Et on sent bien à quel point c'est un discours parfaitement décalé et inopérant, qui ne sert à rien. Mais ça a quand même été quelque chose qui a complètement déstabilisé les gens et aujourd'hui, ils recherchent très profondément une identité. Quelque chose qui m'a beaucoup frappée, c'est aussi la manière dont il met en évidence que les étudiants sont privés de leur histoire. Et c'est vrai qu'on se dit que c'est terrible d'oser tronquer à ce point la réalité.
Dans le sens, tu veux dire que dans les cours d'histoire, même à l'université, on n'aborde pas l'histoire précédente.
Mais les livres étaient interdits, étaient cachés, sinon détruits. Et ça, c'est l'autre aspect aussi qui est difficile à accepter, c'est de découvrir à quel point tout le patrimoine architectural, artistique a été abîmé volontairement. Et actuellement, il y a justement dans ce sens-là quelque chose de très positif qui se passe, dans le sens que le tourisme prend un petit peu en Albanie. Les dirigeants actuels savent qu'ils doivent absolument s'ouvrir sur l'extérieur, que ce n'est plus possible de rester centré dans leur petit pays, que c'est une espèce de mort lente et qu'il n'y aura pas de possibilité de continuer comme cela. Et alors, ils ont commencé maintenant justement, par exemple, à ouvrir de nouveau les églises, à entretenir, par exemple, les icônes qui étaient dans un état lamentable, qu'il fallait redorer, repeindre. Et dans ce sens-là, il y a tout un effort intéressant qui est en train de se développer.
Vers l'ouverture.
Oui.
Tu dis Jean-Paul Chaussex a écrit ça. Cela veut dire qu'entre les deux, entre Elisabeth et Jean-Paul Chaussex, ils se sont partagés certains chapitres. Comment peut-on écrire à deux? Est-ce qu'ils racontent comment ils ont fait ça?
Non, ils ne donnent pas beaucoup d'explications. En fait, j'aurais pu dire les deux époux Chaussex. Bon, il y a un chapitre où Elisabeth raconte plus précisément sa situation de femme étrangère avec d'autres attitudes de base dans ce pays. Bon, alors ça, c'est très spécifique. Sinon, le livre a vraiment été écrit à deux.
Alors pour terminer, après quelques petites notes de musique, nous pourrions écouter un dernier extrait que tu nous proposes, qui en fait nous permet de se rendre compte très concrètement ce qu'il est dur de vivre encore aujourd'hui en Albanie, avec peut-être l'espoir, comme tu l'as dit, que cela change avec l'ouverture petit à petit de l'Albanie à l'extérieur et avec aussi une ouverture à la démocratisation, au multipartisme et à plus de liberté d'expression.
Di Giorgi Rosti Ponya, Kangalchato Selji Tonya.
Sto kalezet lomi kangas për birinë shtrejt të zemrës.
Oho.
Di Giorgi Rosti Ponya, Kangalchato Selji Tonya.
Alors, il s'agit d'un petit chapitre qui s'appelle « Ouverture ». Point d'interrogation. En février 1988, l'incroyable se produisit. L'Albanie accepta de participer à la conférence des pays balkaniques à Belgrade. La rumeur prétend que Ramiz Alia est un réformateur entouré de conservateurs. Les choses n'ont en tout cas pas été faciles pour lui. Désigné comme dauphin par Hoxha après le suicide de Shehu, il fut présenté comme le disciple humble et appliqué du maître. Jeune encore pendant la résistance, il n'avait ni légitimité historique, ni envergure particulière. Il fut responsable de la jeunesse, ministre de la culture. Personnalité effacée avant son investiture, il a été choisi comme l'homme des compromis pour éviter de rompre l'équilibre des clans. Après la mort d'Hoxha, il a cherché à s'imposer. À preuve, il semble bien qu'il soit brouillé avec la femme du dictateur défunt. À la fin du 9e congrès, alors que les caméramans avaient beaucoup de mal à éviter les congressistes assoupis, Alia proclama lui-même sa réélection. À mesure que l'Albanie s'est ouverte, nous avons rencontré de hauts fonctionnaires et quelques ministres. Leur attitude était étonnamment modeste. Alors, je crois que je vais m'interrompre là. Dans le sens que les deux écrivains nous donnent souvent comme ça des petites anecdotes pour nous faire comprendre que vraiment quelque chose est en train de s'installer différemment dans ce pays, mais en même temps reconnaissent la difficulté pour des gens qui n'ont jamais appris à s'exprimer, à oser demander, à oser chercher autre chose que ce qu'ils ont toujours connu.
Annette, tu nous rappelles peut-être le titre du livre et ses auteurs?
Oui, alors il s'agit d'un livre édité aux éditions La Découverte qui s'intitule 57 Boulevard Staline, chronique albanaise. Les auteurs sont Elisabeth et Jean-Paul Chaussex.
J'ai oublié de te demander, le 57 Boulevard Staline, c'est quoi? C'est leur adresse à tous les deux?
Alors, le 57 Boulevard Staline, c'est un immeuble sur le boulevard en plein centre de Tirana, et c'est un immeuble dans lequel n'habitent que des étrangers, dont les Français installés à l'ambassade.
Et bien sûr, nous vous rappelons que 57 Boulevard Staline, vous le trouvez bien sûr sur les rayons de la librairie L'Inédite à Genève, rue du Cardinal Mermillot, et qu'Annette et Evelyne viennent nous rejoindre chaque mois pour nous présenter les nouveautés qu'elles ont découvertes pour nous. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est surtout des auteurs et des auteures qui proviennent des pays de l'Est. Dans quelques instants, nous découvrirons les livres qu'Evelyne nous présentera. Vous êtes toujours sur Radio Zone, Onde Femme, Remue Ménage, 93.8. C'était Maria Bethânia pour faire une petite pause. C'est le Brésil, c'est pas du tout les pays de l'Est, mais c'était histoire de partir sur un autre continent momentanément. Et on repart pour les pays de l'Est, et cette fois-ci, nous allons en URSS. Música. En URSS, Evelyne, mais c'est pour évoquer, l'évocation de Raïssa Gorbatchev, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est écrit par une journaliste allemande, pas du tout par quelqu'un qui vient d'Union soviétique.
Non, c'est une journaliste qui apparemment a accompagné ou assisté à plusieurs déplacements à l'étranger de Raïssa. Et à un moment donné, elle a dû avoir envie d'essayer d'en faire la biographie. C'était, comme on dit, un créneau qui n'avait pas été exploité, parce que je connais pas d'autres ouvrages sur elle.
J'ai vu Madame Reagan, Madame je ne sais pas quoi, il ne manquait plus qu'elle ou bien
Oui, et puis c'était sûrement quelque chose de commercialisable actuellement, vu la popularité de Gourbi en Occident. Et j'avais d'ailleurs aussi envie, je n'ai pas encore réalisé, je vais aussi faire lire la biographie de Gorbatchev après. Mais là, j'ai eu l'occasion d'essayer de voir quelle était la First Lady d'Union soviétique. Un terme qui d'ailleurs n'existe pas, ni une expression qui n'existe en Union soviétique. Elle n'est que First Lady quand elle va à l'étranger, mais pas chez elle.
Mais apparemment, elle a quand même le même statut que toutes les First Lady du monde entier, c'est-à-dire qu'elle court derrière son monsieur. Ou bien a-t-elle un statut différent?
Alors, oui, il faut en parler, c'est pas si simple que ça. Parce que, disons que tous les deux, pour faire un parallèle, mais après on parlera plutôt d'elle, tous les deux, en fait, ils viennent de familles très modestes. Et curieusement, de deux régions qui sont situées pratiquement aux confins de l'Union soviétique. Donc très loin de Moscou, très loin aussi du système bien organisé communiste. Donc ils sont nés tous les deux la même année aussi, 1932, ils ont 58 ans cette année. Et tous les deux, bien que venant de familles différentes et de régions différentes, ils sont dans des régions où apparemment il y avait encore beaucoup le sens de la liberté. Elle vient par exemple des régions des montagnes de l'Altaï, qui sont pratiquement la frontière avec la Chine, et qui étaient des zones où pratiquement personne ne s'aventurait, où on envoyait quelquefois des déportés. Mais des zones qui étaient très difficiles à vivre, mais en même temps, où, si on arrivait à y survivre, on vivait assez librement. Et lui vient d'une région occupée par des Cosaques, où les paysans n'ont jamais été serfs, et où il y avait une tradition justement d'agriculture libre aussi, évidemment qui a été mise entre parenthèses un certain temps, mais quand même, les traditions ne s'étaient pas tout à fait perdues. Donc ça m'a paru intéressant que ces deux personnages, que rien ne destine au départ à occuper des fonctions aussi hautes que celles qu'ils sont arrivés à occuper aujourd'hui, parce qu'ils viennent de... On verra, c'est rien que par leur mérite personnel, je dirais, et puis par les circonstances historiques où ils ont été les bonnes personnes à la bonne place, mais rien ne les destine au départ à arriver à ces fonctions d'aujourd'hui. Ils proviennent de familles très modestes, tous les deux. Elle est la fille d'un cheminot, et lui, il est le fils d'un petit agriculteur. Donc c'est vraiment, on dit souvent ça pour les États-Unis, vous pouvez être président, n'importe qui peut être président. D'une certaine manière, c'était un peu le cas en Union soviétique, à l'époque où eux, ils ont commencé à préparer leurs études. C'est peut-être plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une caste au pouvoir et ça doit être, c'est déjà beaucoup plus hiérarchisé, fermé, organisé. Mais peut-être pas à l'époque où eux, ils sont montés dans ce sens-là de pouvoir, puisqu'ils sont vraiment pas des gens dont les familles avaient des relations, pas du tout. Et donc, si on reprend le cas de Raïssa, c'est la fille d'un cheminot, c'est quand même pas la fille de n'importe qui, dans le sens que les chemins de fer étaient très importants, ils sont toujours encore très importants en Union soviétique. C'est un secteur vital de l'économie, et puis s'il ne marche pas, rien ne marche dans le pays, évidemment, puis c'est un pays tellement immense. Donc tout le personnel des chemins de fer était, au fond, représentait, on pourrait dire, l'aristocratie de la classe ouvrière. Donc le père est un ouvrier important, mais c'est un ouvrier. Et il n'échappe pas non plus à l'emprisonnement sous Staline, d'ailleurs parce qu'il critique à un moment donné la collectivisation forcée des terres. Et ça lui vaudra 3 années de camp, dont il revient un peu malade, mais entier. Il ne va pas revenir comme invalide, comme d'autres sont revenus. il retrouve son travail et ça va signifier pour sa famille beaucoup de déplacements. La famille vit d'ailleurs pratiquement dans un wagon de chemin de fer que la mère a aménagé, puisqu'il circule sans arrêt. Le père est envoyé dans des postes différents et puis la petite famille doit suivre. Il y aura Raïssa, elle est née, il y a encore un frère et une sœur après elle. Donc elle doit changer sans arrêt de lieu de vie, mais aussi d'école. Alors moi, ce qui m'a frappée au fond, c'est de voir que c'est une personne qui, depuis assez jeune, va être chargée de responsabilités. D'abord parce que le père donc est parti dans un camp et la mère reste toute seule, mais aussi parce que elle va devoir lutter extraordinairement pour avancer. Mais il y a, on sent une espèce d'acharnement, une ténacité, une espèce de volonté de faire dans ce personnage qui fait qu'elle va pouvoir avancer, elle va s'en sortir grâce à l'instruction en fait, et parce qu'elle est très douée pour l'étude. Et malgré les déplacements incessants de la famille, malgré les changements d'école, elle va obtenir ce qu'obtiennent assez peu d'élèves dans l'ensemble de la population, c'est-à-dire une médaille d'or à la fin de ses études. Parce qu'elle a été parfaite dans tout. Et bien qu'elle travaille à la maison aussi, bien que vivant dans des conditions de logement, de nourriture, tout ça, très austère, pas de manque vraiment, mais quand même grande austérité. Et ça ne va pas empêcher qu'elle avance en fait tout au long de sa vie. D'après les documents que nous fournit cette journaliste allemande.
Parce qu'en fait, par exemple, la possibilité d'accéder à des études était donnée aussi bien aux garçons qu'aux filles, donc elle ne va pas sentir dans un premier temps, ou peut-être jamais, cette discrimination.
Non, il n'y a pas une discrimination à ce niveau-là. Il y a une discrimination entre la campagne et la ville. Mais elle arrive, par exemple, avant 1949, il n'y avait que 4 années d'études dans les campagnes. Tandis que dans les villes, il y avait déjà 7 ans. Mais au moment où elle arrive, dans sa scolarité, les lois changent et on va donner 7 ans de primaire, disons, à tous les enfants. Et puis, au fur et à mesure qu'elle avance, en même temps, les lois avancent et elle pourra aller dans le secondaire. Et comme elle finit si brillamment, elle va avoir une bourse pour aller à l'université, et elle aura la chance en plus d'être acceptée à l'université de Moscou, qui était la plus prestigieuse à l'époque. Et c'est comme ça que, disons, elle va, à l'âge de 17 ans, quitter sa famille, puis arriver à Moscou.
Aujourd'hui dans Remue Ménage, nos amis de l'Inédite qui nous parlent de bouquins écrits dans l'Est et à propos de l'Est.